Commentaire sur l'épître de Paul aux Romains 6.1 ou 14 demeurer dans le péché se règne et le sens de notre baptême. 6.1, Paul présente la question ainsi, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? On raisonne ainsi, plus on commet du péché, plus la grâce de Dieu est manifestée. Quel que soit le nombre de nos péchés, la grâce peut les couvrir. Il semble que le péché ne puisse pas nous faire du mal, et qu'il crée une occasion de glorifier Dieu pour sa grâce. La logique ressemble à celle que nous avons déjà vue en 3.5.8, où le juif coupable prétend qu'il est dans l'intérêt de Dieu de ne pas le condamner avec le reste de l'humanité afin de faire resplendir sa fidélité envers son peuple élu. En fait, le péché peut toujours nous faire du mal, et il serait illogique, au vu de notre baptême, de chercher à glorifier Dieu de la manière proposée. Voici ce que le chapitre 6 nous montre. Dans la discussion qui suit, trois choses sont évidentes. 1. Tous les chrétiens à Rome avaient été baptisés. De même, la première épître de Paul aux Corinthiens témoigne clairement que, bien que le Christ n'ait pas envoyé Paul pour baptiser, 1 Cor 1.17, tous les membres de l'église à Corinthe avaient été baptisés, 1 Cor 1.13, 6.11, 10.2, 12.13. La déclaration de Paul en 1 Corinthiens 1.17 ne signifie pas que le baptême est sans importance, mais que l'identité de celui qui baptise les hommes est sans importance. De nos jours, cependant, beaucoup de groupes chrétiens négligent le baptême. Dans leurs assemblées, bon nombre de chrétiens n'ont pas été baptisés. Par cette pratique, on déforme le sens du baptême biblique et se met en conflit avec l'enseignement biblique. 2. Le baptême était une immersion. Nous sommes ensevelis dans le baptême, qui est la conformité à sa mort et à sa résurrection. L'immersion représente la mort, l'enterrement et la résurrection. Cette image se perd quand on met d'autres pratiques à la place de l'immersion. Beaucoup de groupes aspergent de l'eau sur les convertis, passent une serviette mouillée sur leur front, ou font d'autres cérémonies avec de l'eau. Ils appellent ces rites le baptême, mais il ne s'agit pas d'immersion, de telles pratiques ne s'accordent pas là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, si sachant que notre vieil homme a été du tout avec Romains 6. 3. Dans les chapitres précédents, Paul n'enseignait pas la justification par la foi sans le baptême. V2. Pourquoi ne pas vivre dans le péché? Parce que nous sommes morts au péché. Dans quel sens sommes-nous morts au péché? Nous ne sommes pas morts à son influence, ni à sa présence, ni à ses effets. En effet, notre Seigneur ne nous a-t-il pas appris à prier, pardonne-nous nos offenses? Luc 11.4. Nous sommes morts à la condamnation et à la culpabilité du péché. Doyle qui est mort au péché ne signifie pas que la tentation du péché a cessé d'exister. D'ailleurs, s'il en était ainsi, pourquoi aurait-on tant d'exhortations dans le Nouveau Testament de résister à la tentation? Il signifie que nous sommes morts au péché par la mort du Christ qui a subi le châtiment que mérite le péché. Dans notre union avec le Christ, nous avons, dans un sens, participé à sa mort. Voyant que la dette du péché a été payée, et voyant le prix qui fut exigé, pourquoi vouloir retourner au style de vie qui a généré cette dette? En vue de la tragédie qu'il provoqua, nous devrions tenir le péché en horreur. V3, dans ce verset nous voyons que c'est bien dans sa mort, la mort de Christ, que nous sommes morts. Et c'est par le baptême que nous sommes unis à cette mort. C'est par le baptême que nous entrons en Christ, nous sommes baptisés pour former un seul corps, pour devenir membres de son corps, 1 Corinthiens 12.13, 27. Étant dans son corps, nous partageons la mort qu'il subit pour le péché. V4, le baptême n'est pas seulement lié à la mort de Christ, mais aussi à sa résurrection. Jésus est sorti du tombeau par la puissance glorieuse du Père, nous sommes sortis des eaux du baptême. Il ressuscita pour être un sauveur vivant, nous sortons de l'eau afin de marcher en nouveauté de vie. Tout est changé. La nouveauté de vie signifie une nouvelle condition devant Dieu, celle de justifier. Vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Colossiens 3.3. Le chrétien est vivant pour Dieu en Jésus-Christ, Romains 6.11. La nouveauté de vie signifie également une nouvelle sorte de vie morale. Le prix de nos péchés n'a pas été payé pour que nous restions dans la rébellion. Cela est appuyé par le verbe marcher, qui se réfère dans la Bible à la conduite d'une personne, voir Luc 1.6, Actes 9.31, Romains 4.12, 8.4, 13.13, 14.15, Galates 5.16, 25, Éphésiens 5.2, 8, Philippiens 3.16, Colossiens 2.6, 2 Pierre 3.3, 1 Jean 2.6, 2 Jean 4. Puisqu'il est ressuscité pour marcher d'une manière nouvelle, le chrétien ne peut pas demeurer dans le péché V5, le baptême est aussi lié à notre résurrection future. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, si nous sommes unis à sa mort dans le baptême, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, nous serons ressuscités pour la gloire comme ce fut le cas pour Jésus. En plus de l'image du baptême, nous nous voyons crucifiés avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est car celui qui est mort est libre du péché. 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. 13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos ici l'image d'une moisson, voir Jean 12.24. 1 Corinthiens 15.23, 36 à 38, dont le Christ est les prémices, le premier à ressusciter. Dans les versets 5 et 8, la mort avec Christ est vue comme au passé, et la résurrection à la vie avec lui comme au futur. Vs 6.7, notre vieil homme, notre vie dans le péché, Colossiens 3.9, Éphésiens 4.21, 22, méritait la mort. Et il a été crucifié avec Christ, quand par le baptême nous avons été unis à sa mort pour le péché. Nous ne devons pas donc reprendre les anciennes habitudes que nous avions en tant que vieil homme pécheur. La vie que nous menions devait être détruite. Le vieil homme était esclave du péché. Il est mort, et le péché, personnifié, a perdu un serviteur. Imaginez-vous un prisonnier, rendu à l'esclavage et dans les circonstances les plus misérables. Il n'a aucun espoir de s'échapper si ce n'est par la mort. Sa vie étant devenue si intolérable, il meurt volontiers afin de ne plus être obligé de servir son maître détesté. Car, se dit-il, celui qui est mort est libre. Dans l'image de Paul, le maître, c'est le péché, et celui qui est libre du péché, est celui qui est mort avec Christ dans le baptême. Étant libéré par ma mort avec Christ, pourquoi voudrais-je rester dans l'esclavage? Car vivre dans le péché, c'est bien être dans l'esclavage au péché. Une autre nuance ressort du fait que le mot traduit libre au verset c'était le mot justifié. Comme nous avons dit dans les commentaires sur les versets 3.4, être mort au péché signifie que nous sommes unis à la mort du Christ par laquelle la dette du péché est payée et le pécheur justifié. Celui qui est mort est donc libre, il n'est plus esclave, et il est justifié. Vs 8.9, notre espérance de vivre dans la nouveauté de vie éternellement, comme Christ qui ne meurt plus et la mort n'a plus de pouvoir sur lui, dépend du fait d'être mort avec Christ. Encore, nous voyons la nécessité du baptême pour bénéficier de la mort et la résurrection de Jésus. Vs 10.11, étant mort pour le péché, Jésus en a fini avec le péché, 1 Pierre 4.1. Le péché ne peut plus exiger quoi que ce soit de lui. Il est mort une fois pour toutes. Il ne vit que pour Dieu. En fait, pendant qu'il était sur la terre il vivait pour Dieu aussi, mais nous n'avions pas vécu ainsi, et c'est pour remédier à nos offenses qu'il a eu à faire avec le péché, ayant suivi Jésus dans la mort par le baptême, nous devons penser à cela comme une réalité et non une simple figure. Nous devons nous regarder comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, rendus à la vie avec lui, justifiés dans notre union avec lui, et consacrés à Dieu comme lui. Vs 12.13, comme notre prisonnier imaginaire, voire sur Vs 6.7, nous nous sommes échappés à un maître cruel par notre mort. Nous étant échappés à la servitude au péché, nous n'avons aucune raison de livrer nos membres encore à son service. Au lieu de considérer la possibilité de demeurer dans le péché comme une bonne occasion, Paul la présente comme une servitude que nous voulons éviter à tout prix. Il nous exhorte plutôt à nous donner comme étant des membres utiles, comme des instruments de justice. 14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Entièrement au service de Dieu. Voir aussi Romains 12.1. V14 Le péché avait un pouvoir sur les hommes par la loi qui les condamnait. Si l'homme était sous la loi et sans la grâce, il n'aurait pas de liberté, et aucun encouragement pour lutter contre le péché. Ayant commis un seul péché, on était condamné. Pourquoi essayer encore? Le péché a le pouvoir sur nous, il nous vainc. Sous la grâce, il y a de la miséricorde, et donc une raison pour reprendre la lutte après un échec. Certains ont abusé de la déclaration de Paul que vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Il est vrai que nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes sujets à aucune loi divine. Paul a déjà insisté au chapitre 3 et 4 sur le fait que personne ne pourrait être justifié par les œuvres de la loi. Au chapitre 7, il soutiendra encore l'idée que l'on a été dégagé de la loi, parlant de la loi mosaïque. Mais la Bible enseigne clairement que le chrétien est sous une loi, la loi de Christ, l'Évangile. Il a été suggéré que le mot « grâce » en Romains 6.14-15 représente l'Évangile. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais sous l'Évangile de Christ, qui est une loi, mais une très différente sorte de loi. En 1 Corinthiens 9.21, Paul dit, « Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi, Hébreux 7.12. Il y a toujours une loi, mais ce n'est plus la loi qui reposait sur le sacerdoce lévitique. » Encore en hébreu, l'auteur cite une prophétie de Jérémie qui parle de la nouvelle alliance, « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. » Hébreux 8.10. L'évangile de grâce n'exclut pas la nécessité d'une obéissance au commandement de Dieu. Tite 2.11-12 dit, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Oui, nous sommes sous la loi de Christ, l'Évangile, la Nouvelle Alliance, mais elle est très différente de celle de Moïse puisqu'en elle nous avons accès au remède à nos péchés, le sang de Christ.